et quelqu'un pousse un cri. Y'a du partout dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Pas de commencer à l'aile gauche de la tour. Déjà tous mes potes mettent à saccager les pions. Avec des mitraillettes et y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Gaffez les mecs, ça va saigner. Ouais, ma qui dit, sortez de la bande de rats. Pour l'armée, si vous arrêtez pas, tu lâches le radis, je préfère encore crever. On a des allumettes, on va tout faire cramer. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Dans les gaz suffocants. On a tous dérouillé, mais maintenant de temps en temps, y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Que fait les mecs, ça va saigner. Allez avec moi. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Que fait les mecs, ça va saigner.
Bien à l'écoute de l'envolée comme tous les vendredis soirs de 19h à 20h30 sur FPP 106.3. Et donc voilà, c'est le premier direct depuis la rentrée. Il y a pas mal de monde autour du... Enfin voilà, ce soir. Déjà, il y a Arthur.
Salut.
Charlotte.
Salut.
Manu.
Salut.
Il y a un autre Arthur.
Salut.
Serge.
Salut tout le monde.
Et Jay qui est au bocal, qui va nous faire la technique. Et donc il y a Alex aussi.
Ouais, il y a Alex, puis tu dis bonjour Alex.
Salut.
Et y a Sylvia et Greg qui sont en auberge espagnole, mais qui vont nous rejoindre au fil de l'émission, et puis Hassan aussi qui devrait nous retrouver aussi. Donc voilà, c'est cool de se retrouver autour du micro en direct.
Ouais, ça fait bien plaisir. Et du coup, donc ça va être quand même une grosse émission. On va commencer par redonner les coordonnées. Pour nous appeler pendant l'émission, c'est au 01 40 05 06 10. Et pour nous appeler le reste de la semaine, c'est au 07 52 40 22 48. Pour nous écrire, c'est au 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris, l'envolée-fpp. Et il y a plein de réseaux sociaux où, a priori, on peut nous trouver aussi, quoi. Et donc, pour commencer aujourd'hui, on va commencer par lire une lettre. Après ça, on va revenir un peu sur l'histoire de Boris, qui est incarcéré à Nancy et dont c'était déjà fait un peu l'écho. On va revenir sur la sortie d'un bouquin par Charlotte et sur la question des proches de la prison. Et à la fin, on aura un appel de la prison pour sans-papiers de Vincennes pour revenir un peu sur le parcours carcéral d'une personne qui est enfermée là-bas et voilà ce qui se passe en ce moment, les histoires de vol, les expulsions qui ont lieu, quoi. Et donc, pour commencer, on va vous lire la lettre de...
Ouais, donc une lettre d'Adeline que je vais vous lire, donc qui date là du début du mois. Bonjour l'envolé. Concernant la modification de mon prénom avec l'administration pénitentiaire, j'ai appris le 30 juillet dernier, donc 2021, que la greffe a saisi le procureur de la République car il leur manquerait, soi-disant, certaines validations. Ce qui est évidemment faux. Encore une excuse, comme toutes les autres, sans fondement. Pour quand j'ai reçu le livret d'accueil et une note d'information autorisant ou non certains vêtements et autres pour les personnes en dysphonie de genre, donc transgenre, c'est la directrice de l'établissement qui a répondu à mon courrier du 18 juin, que j'avais également adressé au SPIP, avec qui j'ai échangé. Suite à la réponse de la directrice, je lui ai répondu pour la remercier, ainsi que la direction du SPIP du Calvados. J'ai souvent entendu parler de Chloé, et son parcours est inacceptable. J'ai également lu les documents que tu m'as envoyés et j'ai été sidéré. C'est pour cela qu'à ma sortie, je vais créer une association pour venir en aide aux personnes transgenres incarcérées pour les accompagner dans toutes leurs démarches. L'association sera composée de professionnels de la santé, mais également d'avocats et de d'autres associations et organismes qui existent déjà pour défendre les droits des détenus. Je ferai tout mon possible pour que nous puissions être joignables H24 et 7 jours sur 7, y compris les jours fériés et gratuitement. De mon côté, pas beaucoup de nouvelles. Je cherche toujours une endo, donc c'est-à-dire un endocrinologue, donc quelqu'un qui peut donner les traitements pour la transition. Les traitements hormonaux. Donc l'USMP, c'est-à-dire l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire, sont des menteurs. Le service endocrinologie du coup du groupe hospitalier auquel ils sont rattachés ne prend pas en charge les personnes transgenres et les oriente systématiquement sur le CHU. Je peux t'assurer que je ne baisse pas les bras. Leur comportement et accompagnement est inacceptable. Dernière nouvelle, je me suis fait agresser verbalement par 3 agents, dont l'une des vaguemestres, le 11 août dernier, en revenant de l'unité sanitaire, donc l'USPM, et également le mardi 24 août. Voilà, j'ai fait ma première injection de vaccin. Et donc voilà, pour les dernières nouvelles, n'hésite pas à parler de moi, n'hésitez pas à parler de moi tout autour de vous, et je compte sur vous voilà, pour faire tourner ces infos. Au plaisir de vous lire très bientôt. Amicalement, Adeline.
Eh ben, merci beaucoup pour ce courrier. Moi, je voulais juste revenir sur 2-3 trucs. Bon, déjà, on avait commencé... on en parle assez régulièrement. On avait reçu des lettres d'Adeline, de Chloé, d'une autre prisonnière incarcérée qui subit la même chose, c'est-à-dire la transphobie de la part de l'administration pénitentiaire. On rappelle qu'en fait, la prison, bah, c'est lié à tout ce qui se passe dehors. Et donc, que tout le climat transphobe, les administrations transphobes, et bah, évidemment, ça se répercute en tôle. Je voulais aussi dire que la Chloé dont elle parle, c'est quelqu'un qui est beaucoup intervenu dans cette émission, dont on a lu beaucoup de lettres il y a, je pense, une dizaine d'années, parce qu'elle s'est beaucoup battue, en fait, à la tôle de Caen pour faire reconnaître son changement de genre. Et du coup, ça a été une grosse, grosse lutte menée en interne et qu'elle continue maintenant, aujourd'hui, en solidarité avec tout un tas de prisonnières incarcérées trans. Et le dernier truc que je voulais dire, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de prisonnières trans qui sont incarcérées en quartier d'isolement, que ce soit en quartier pour hommes ou en quartier pour femmes, soi-disant pour les protéger de la transphobie des autres prisonniers et prisonnières. Mais en réalité, c'est une manière aussi de punir ces personnes-là, quoi. Et que donc ça, c'est une pratique qui est vachement répandue de la part de l'administration pénitentiaire. Et c'est important qu'il y ait cette parole-là qui sorte de ces personnes incarcérées, quoi. Ouais, et le dernier truc, peut-être pour dire, c'est qu'en fait, quand elle parle de son traitement, il y a aussi plein de gens qui sont incarcérés en cours de traitement, que ce soit en centre de rétention, en HP ou en tôle, et dont le traitement, en fait, n'est pas poursuivi parce que l'administration pénitentiaire considère que ce n'est pas un traitement pour la santé de la personne, quoi. Et donc, il y a plein de gens qui voient leur traitement s'interrompre du jour au lendemain alors que c'est hyper dangereux, quoi.
Oui, c'est ça. Ça fait partie quand même des traitements, en fait, où c'est très important de les suivre et il ne doit pas y avoir des sauts dans les... Enfin, voilà. Et c'est souvent le cas, d'avoir ton premier rendez-vous au médical quand tu es en arrivant. Et donc, ça prend 3 jours et tu arrives à avoir tes traitements seulement 3 jours après. C'est hyper dangereux, en fait. Voilà. Et donc, c'est un truc récurrent parce que... On refuse de croire les personnes parce que, enfin, voilà, et c'est intolérable, quoi. Enfin, c'est vraiment inacceptable. Et donc, il faut se battre. Il y a quand même plein de gens qui se battent quand même là-dessus et tout ça. Voilà. Il faut relayer ces paroles et puis aussi soutenir et être attentif à ce qui se passe aussi à l'intérieur, quoi.
Ouais, parce que pour rappeler, enfin, on en parlait aussi dans le dernier journal, le dernier numéro du journal. En fait, c'est ce que tu racontais. L'administration pénitentiaire, du coup, il reconnaît pas les personnes transgenres. Et donc, en fait, il attend l'étape finale de ta transition pour officiellement te reconnaître, le changement, je crois, d'état civil, pour officiellement te reconnaître dans le genre auquel tu veux appartenir et donc te transférer dans le, dans le quartier où tu devrais être. Et donc, c'est vraiment un truc. Enfin, il y a vraiment des gens qui se battent à l'intérieur, en fait, pour contre ça. Parce qu'en fait, ça crée des situations vraiment horribles, comme tu dis, qu'ils gèrent en enfermant des gens à l'isolement. Soi-disant pour leur sécurité. Donc en même temps, ça fait plaisir de voir qu'elle a envie, dans sa lettre, c'est ce qu'elle dit, qu'elle a envie de se battre même après, parce que c'est des trucs qui sont relayés, heureusement, en ce moment, par certains collectifs, tous ces trucs des prisonniers transgenres, ce qu'ils subissent en plus à l'intérieur, en plus de tout ce dont on parle.
Ouais, et l'isolement, c'est une mesure disciplinaire et c'est une mesure de. Enfin, en fait, c'est de la torture blanche, quoi, quand c'est prolongé. Et du coup, t'imposes ça à quelqu'un parce qu'il ou elle est transgenre, et en fait, c'est hyper grave, quoi. Et l'autre truc, c'est que ces interruptions de traitement, moi, ce que je disais, c'est que ça concerne pas que les personnes, que ces personnes, en fait. Il y a plein de gens qui sont incarcérés en centre de rétention et qui se retrouvent privés de leur traitement qu'on leur a donné avant et qui sont hyper, qui peuvent être hyper addictifs pour des questions psy, etc. Et du jour au lendemain, ça s'arrête. Et en fait, c'est hyper dangereux ce qu'ils font, quoi. De la même manière que les traitements qu'ils donnent à balle à l'intérieur. Du jour au lendemain, les gens ils sortent, ils n'ont plus accès à tout le Valium, à tout ce qu'on leur donne au quotidien pour se cachetonner en centre de rétention ou en tôle, quoi. Donc c'est, tout ça, c'est des gestions du soin qui sont hyper... d'absence de soin, en fait. Genre, qui sont hyper tendues, quoi. Et qu'il faut continuer de dénoncer et d'essayer de se bouger dessus, quoi. Du coup, là, on va pas mettre de musique directe. Ce qu'on se disait, c'est qu'on voulait reparler de la situation de Boris. Il y a eu quelques textes qui sont sortis pendant l'été. C'est quelqu'un qui s'est fait incarcérer il y a quelques mois à la tôle de Nancy, si je ne dis pas de conneries. Et du coup, voilà.
Ouais. Donc, c'est. Boris, c'est un anarchiste qui est incarcéré à la prison de Nancy, qui a été arrêté en septembre 2020 pour l'incendie d'une antenne relais dans le Jura. Il est. Il a été placé en détention préventive et il est passé en procès en mai 2021, donc c'était en plein pendant le Covid. Il y a eu procès à huis clos. L'avocate avait demandé un report, mais qui a été refusé, donc parce que l'avocate pouvait pas être présente. Donc il s'est il a dû subir un procès seul sans avocat. Et il s'est pris 4 mois de prison, dont 2 en ferme. Avec des centaines de milliers d'euros aussi de dommages et intérêts. Il y avait quand même au procès, pour histoire d'assurer un peu le simulacre de la publicité des débats, il y avait par contre la presse locale qui était invitée, qui a pu qui a ensuite sorti des articles, évidemment en prenant le parti totalement de la justice et de la police.
Qui pendant le Covid ont arrêté d'être publics, ce qui déjà de base en fait c'est un truc de ouf. Et ils l'ont fait aussi au Ménilamlot pendant les procès là suite à l'incendie de janvier, où ils ont fait la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont dit que les débats ils étaient pas publics, mais leur manière de les rendre publics c'était qu'il y a un journaliste dans la salle. Et en fait c'est une tendance qui est hyper chaude, quoi, et qui rend hyper compliqué. Genre il y a plus de soutien, ça fait des procès hyper particuliers, quoi.
Ouais, surtout c'est complètement, c'est délirant qu'ils aient pris fin, c'est délirant. On voit pourquoi ils l'ont fait et tout, mais je veux dire, en mai 2021, tout fonctionnait normalement. Bon, il y avait cette histoire de couvre-feu, je sais plus en mai 2021 ce qu'il y avait comme mesure, mais c'est complètement... clairement, c'est un truc punitif ou je sais pas trop quoi pour dire, voilà, allez, tiens, on va en profiter, on va bien vous mettre la misère et tout en vous coupant de tous vos liens et tout, quoi. Et du coup... Donc, il est resté à la prison de Nancy. Il a sorti en juin une lettre. Du coup, il explique pourquoi il a été condamné. Du coup, il donne un peu les raisons de sa lutte contre les outils de contrôle et la technologie et les conséquences que ça a sur la surveillance généralisée, sur la dévastation de la planète et tout. Il revient aussi du coup sur sa garde à vue et son procès. Donc, je vais lire un petit bout. De sa lettre par rapport à ça. Donc il dit le 22 septembre à Besançon, les gendarmes de la section régionale de Besançon et d'autres de la cellule Oracle, accompagnés de la police judiciaire de Dijon, ont déboulé aux alentours de 6h30 chez moi, ainsi que dans deux autres domiciles. Sur commission rogatoire de la juge d'instruction Lydia Pflug, pour destruction par incendie d'antenne relais en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs et destruction par incendie en bande organisée à Besançon dans la période du 9 janvier au 9 avril 2020. Si les deux autres perquisitionnés sont sortis en fin de journée, j'ai été déféré à l'issue de mes 48 heures de garde à vue dans le bureau de la juge, inculpé de l'incendie de deux antennes relais sur le Mont Poupet le 10 avril 2020 dans le Jura et placé sous statut de témoin assisté pour un autre incendie, celui d'un local technique SFR du relais TDF du Mont de Bréguille sur les hauteurs de Besançon, ce qui vaut la qualification de tentative. À l'issue de l'enquête de mars 2021, le parquet requiert un non-lieu pour l'association de malfaiteurs et la tentative d'incendie de fin mars, mais réitère le renvoi en correctionnel pour l'incendie du 10 avril 2020. Donc c'est ce pourquoi il est passé en procès et tout. Il a fait appel. Et le 7 août, il y a le feu qui a pris dans sa cellule le matin. Et du coup, Boris, il a été donc très gravement blessé avec pronostic vital engagé et plongé dans le coma artificiel, du coup transféré à l'hôpital. Alors, il y a FO pénitentiaire qui s'est empressé dans les heures qui ont suivi de sortir un communiqué pour laver de tout soupçon les matons, expliquant que voilà, ils avaient tout fait dans les règles, que tout avait été bien cadré, toutes les règles de sécurité avaient été respectées, en précisant que le maton qui était rentré dans les cellules avait mis son équipement de sécurité, etc. Et du coup, c'est sorti dans la presse locale le matin même, tandis que la famille de Boris, elle a été prévenue, elle, que plus tard dans la journée. Donc, c'était connu, information connue du grand public avant que la famille de Boris soit appelée par la prison pour leur dire, bah voilà, il s'est passé ça, il est à l'hôpital et tout. Du coup, aujourd'hui, il est toujours dans un état critique au service des grands brûlés de l'hôpital. On sait pas ce qui s'est passé, et lui seul pourra le dire. Mais malgré tout, ce que les matons vont dire pour se déresponsabiliser de la situation, évidemment. Ce qui est sûr, c'est que c'est de toute façon eux les responsables, quoi, les matons, l'administration pénitentiaire. Il y a un texte qui a été écrit par des camarades et amis à lui. Du coup, pareil, je vais en lire un petit extrait. Ils disent quelles que soient les circonstances de cet incendie, la seule certitude est que l'administration pénitentiaire, la justice, leur larbin et leur monde sont responsables. Il est clair que dans le monde carcéral, ces « accidents » entre guillemets relèvent de la violence étatique. Cette situation est la conséquence de la torture institutionnalisée. Là où les corps sont enfermés, leurs mouvements épiés scrupuleusement, les feux de cellules sont parfois le dernier moyen de crier son insubordination ou sa détresse. Nous pointons du doigt la récurrence de ces incidents qui tournent régulièrement au drame au gré de la vitesse d'intervention de la matonnerie. De Villepinte en juin 2020 à la Santé en octobre de la même année, en passant par l'île Sequedin en juillet dernier, l'incendie de la cellule de Boris n'est pas un cas isolé. Et le texte, du coup, il appelle aussi à exprimer sa solidarité avec Boris. Et donc, il y a eu plusieurs actions qui ont été faites contre des entreprises qui participent à faire tourner, à construire les prisons, notamment celles qui participent à la construction de la nouvelle prison qu'ils veulent construire en Seine-Saint-Denis. Et voilà, donc comme je disais, pour l'instant, il est toujours dans un état critique. On ne peut pas dire comment va évoluer son état de santé, et ni si, par exemple, il va y avoir un transfert en unité hospitalisée sécurisée là, qui est prévu. Et voilà, donc quand on aura des nouvelles sur son état de santé précis à lui, on en donnera. Et il y a une enquête évidemment qui est ouverte, du coup on ne sait pas exactement ce que ça va donner, mais il y a d'autres histoires similaires où en fait les personnes après elles se sont retrouvées inculpées pour l'incendie de leur cellule. Donc voilà, en tout cas, pour l'instant on ne peut pas trop en dire plus, on n'en sait pas plus, quoi.
Et d'ailleurs, on a quelqu'un au téléphone. C'est qui ?
Salut les amis.
Je ne reconnais pas cette voix.
Espagnole.
Coucou Sylvia.
Salut à tous et à toutes.
Salut. tu pouvais pas être avec nous ce soir, mais en fait, ça fait quelques temps qu'on discutait de ces feux de cellules, et donc ça nous semblait aussi important que tu puisses être là avec nous pour pouvoir en discuter, quoi.
Bah, c'est un sujet qui me prend aux tripes, parce que d'une part, quand j'entends effectivement cette force ouvrière qui se décharge de toute responsabilité dans ces feux qui sont particulièrement dramatiques aux yeux des proches et des codétenus incarcérés dans ces tôles. Pourquoi je vous dis ça? J'ai pas envie de parler au nom de Sylvia L'Envolée. Là, j'ai vraiment envie de parler en tant qu'ancienne prisonnière. Parce que quand j'ai lu qu'il y a eu un feu de cellule, ça n'a pas été jusqu'au drame, mais c'est terrifiant. Faut savoir que quand t'es enfermé comme ça et que tu t'as pas les clés et que tu sens cette odeur de fumée et que tu t'entends des cris et que personne n'est là pour t'expliquer ce qui se passe et d'où ça vient. Et ça passe par plusieurs sentiments. Alors, ça passe ça s'est passé comment? Qu'est-ce qu'il y a? Qui c'est qui le feu il est dans quelle cellule? C'est ta pote, c'est pas ta pote, c'est tellement de trucs qui passent. Il est où ce feu? Est-ce que ça va arriver jusqu'à ma cellule? Je vais mourir, elle va mourir, il va mourir. Tu vois, ça passe par tellement de sentiments qui fait que tu peux pas rester indemne à ça. Je voulais dire aussi que quand il y a un feu de cellule comme ça, et comme quand il y a un drame, quel qu'il soit, quelqu'un qui est très malade en cellule, il y a aucune animosité quand tu es enfermé dans 9 mètres carrés. Ça veut dire que ce soit ton ennemi ou pas ton ennemi qui est en train de souffrir dans sa grotte, il n'y a plus de haine. Tu comprends? Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Ça veut dire que tout le monde réagit. Ça tape aux fenêtres, ça crie, ça hurle. Et on ne peut pas me dire que ce n'est pas vrai, puisque dans la lettre des amis de Boris, c'est très très bien expliqué que par exemple, la Villepinte, pour Khaled, qui avait brûlé vif complètement dans sa cellule et que les gens avaient filmé, on entend très bien ces cris de prisonniers derrière qui tapent aux portes et qui hurlent aux fenêtres. On ne peut pas me dire que ces surveillants n'entendent pas. Ce n'est pas vrai. La nuit, c'est très calme, les prisons. La nuit, tout le monde dort. On peut entendre quelques musiques, on peut entendre quelques gens qui rigolent, mais la plupart des prisonniers dorment. C'est très calme. Voilà, on entend quelques bruits de son. Et donc, si ça commence à taper aux portes, c'est qu'il y a une alerte. Mais ils s'en foutent. Ils viennent 30 minutes, 40 minutes, des fois plus. C'est immonde de laisser des gens dans la totale indifférence et après faire des tracts de surveillants qui disent « Ah oui, je me félicite d'avoir ouvert la cellule et d'avoir sauvé cette personne qui est au bord de la mort dans un hôpital. » Et de surcroît que la presse est prévenue avant tout le monde. Mais c'est immonde. C'est immonde. Et il est important que les gens sachent que ces surveillants sont responsables. L'administration pénitentiaire est responsable de ce drame et de ces drames.
Voilà. Non, mais oui, c'est et puis souvent, enfin, c'est très souvent que enfin là, j'ai refouillé un peu très rapidement et je suis retombé sur un truc en juillet dernier où il y a quelqu'un qui a pris 6 mois de tôle supplémentaire, alors qu'il y a eu un feu dans sa cellule, quoi. Enfin, voilà.
Alors, faut savoir qu'un feu de cellule, ça peut se déclarer pas. Moi, j'ai vu des gens prendre un feu de cellule parce que c'était l'hiver, il caillait, il n'y avait pas de radiateur, ils ont allumé les plaques électrique et le feu a débuté comme ça parce qu'ils se sont endormis. Tu comprends? C'est pas forcément des feux de cellules volontaires. C'est pas forcément. Ça peut être des gens qui sont dans la détresse, mais ça peut être un accident aussi. Tu vois? Et le fait que ces personnes-là sont jugées, d'une part, ils sont jugés parce qu'ils sont dans une souffrance ou parce qu'il y a eu un accident. C'est quoi? C'est des fous, en fait. s'en fout. Je crois que...
Bah, ils savent très bien ce qu'ils font, en fait. Enfin, tu vois,
bien sûr qu'ils savent ce qu'ils font.
Quand ils balancent les infos dès le début, voilà, pour plaindre les surveillants de la situation, voilà, comme tu disais, c'est abject, j'ai même pas de mots.
Et de plus, quelqu'un qui décide de mettre le feu dans sa cellule, c'est un acte tellement de détresse et de douleur qu'on n'a pas le droit, en vrai, de le juger pour ça. Tu le punis. Alors déjà, tu le punis, parce qu'il tu l'enfermes, et en plus, tu le repunis derrière parce qu'il est malheureux et qu'il est dans la détresse et la souffrance et que dans une alerte. Voilà, c'est pas un acte... C'est pas un acte... Voilà, c'est... Ne pas faire ça. Encore une fois, ça prouve bien que la prison, ça, à part détruire, elle sert à rien.
Oui, et puis ça a été le cas aussi à la santé, voilà, où il y a eu différents feux dans les cellules, alors qu'il y avait des coupures d'eau, genre de trucs. Et donc, là, voilà, pareil encore. En fait, c'est une autre manière où l'administration est complètement responsable, quoi. Enfin, voilà, il suffit qu'il y ait un truc qui prenne feu dans ta cellule, comme ça peut arriver. Il n'y a plus d'eau. C'est l'administration qui est responsable, point barre.
Il y a des gens qui sont sous traitement très, très, très dur en détention, qui sont sous anxiolytiques et qui s'endorment à cause des
médicaments. Avec la clope, quoi.
Et l'hiver, quand tu mets ta plaque à chauffer, parce que il caille, je te jure, il caille. Il y a des chauffages au sol à Fleury et à Fresnes, c'est des gros tuyaux qui traversent toute une cellule. C'est frigorifié l'hiver. Tu vois, donc tu laisses allumer ta plaque, tu t'endors parce que t'es sous cachet et que tu vois ce que je veux dire, tu peux ne pas avoir la force de te lever, je sais pas, tu vois, ça c'est déjà arrivé, ouais. Des accidents et quand je vois c'est surveillant, ah non, elle me dégoûte, c'est trop de voir autant de d'inhumanisme dans leur corps et dans leur âme à ces gens-là, c'est trop. Voilà. En tout cas, je tenais à apporter mon soutien vraiment aux proches de Boris et à tous les prisonniers et prisonnières de France, bien évidemment. Et surtout, je voudrais dire aussi que les gars ou les femmes, quand il se passe des choses comme ça, vous savez ce que la personne elle a vécu. Vous l'avez entendu, vous l'avez subi ça avec lui. Ne restez pas dans l'ombre, putain. C'est important, témoignez. Dites les choses. On ne peut pas les laisser faire sans rien dire. Arrêtez, putain. Arrêtez de. Vous vous rendez complice d'eux et vous les couvrez. Il ne faut pas couvrir ces gens-là. Il ne faut pas les couvrir. Ils ne vous font pas de cadeaux. Il ne faut pas qu'on leur fasse de cadeaux à ces gens-là. Il faut absolument les dénoncer. Vos témoignages sont pour nous et pour ceux qui subissent cette douleur tellement, tellement importants. Tellement importants.
Non, c'est... merci Sylvia d'avoir appelé, d'avoir voilà. On se revoit dans 2 semaines pour à ce micro-là. On se verra.
Vous allez me manquer.
Menteuse.
Non, je plaisante. Vous allez réellement me manquer.
Il y a les matons, mais il y a aussi la presse, quoi, parce que le feu, ils disent ça, donc il se déclenche à 6h30. Et à 10h, il y a un article qui paraît dans l'Est républicain, enfin 10h52, mais bon. Et donc, l'Est républicain, ils ont déjà bouclé l'enquête, puisqu'ils disent les gardiens sont intervenus très rapidement, donc en reprenant exactement ce qui est écrit dans le communiqué de Force ouvrière. Et puis, ensuite, après, ils disent c'est intentionnel, qu'il a incendié des objets, des papiers dans sa cellule, que son comportement n'avait rien laissé paraître avant son passage à l'acte. Voilà, du coup, pour eux, ça y est, c'est clos, l'enquête elle est close, le jugement il est donné et tout, quoi. Et
tu sens bien les éléments de langage pour déjà de l'administration pénitentiaire pour dire avant que la famille elle puisse prendre la parole, avant que les proches ils puissent prendre la parole, déjà t'informes publiquement et tu mets ta version, quoi. Et ça qui est vraiment, enfin c'est vraiment dégueulasse aussi comme méthode.
Et l'article il se termine du coup en déresponsabilisant totalement les matons, puisqu'ils disent la dernière phrase de l'article c'est les agents de la pénitentiaire en charge de ces quartiers n'ont rien remarqué lors de leur ronde de 6 heures.
Mais parce que, alors d'une part, la ronde à 6 heures, c'est pas la ronde à 6 heures, puisque c'est à l'heure où ils donnent à manger, en vrai. sont entre 5h et 18h. Il faut qu'ils arrêtent leur cinéma, encore une fois. Tu vois, la vérité, nous, on la connaît, on la subit, donc forcément, on la connaît. Et donc, il faut arrêter. La dernière ronde, généralement, elle est vers 20h, 21h, tu vois. Après, t'es tranquille, en vrai, quand t'es en cellule. Tu peux commencer à sortir ton vélo et fumer tranquille, pépère, sans qu'on te prenne la tête. Et la nuit, t'as une autre ronde vers 3h, tu vois, t'as une autre ronde, en vrai. Mais après, ça dépend de ceux qui ont des rondes toutes les 45 minutes. Mais en vrai, ces gens-là, c'est des feignasses. Ils restent, ils font genre, ils travaillent la nuit. Mais en vrai, ils sont dans leur bureau et ils sont entre eux et ils n'ont rien à foutre. Ça les arrange de travailler la nuit. Il n'y a pas d'ouverture de porte, tu comprends ce que je veux dire? Il faut qu'ils arrêtent leur cinéma. Ils savent très bien de quoi ils sont responsables aujourd'hui. Et j'en prends l'entière responsabilité de le dire à l'antenne. Ils sont responsables de tout ça. Et ils peuvent pas me dire qu'ils n'ont pas entendu les cris des autres à côté. C'est pas possible. C'est pas possible. On a encore une fois là, il y a à Angers, il y a eu un jeune homme qui a eu un feu de cellule et qui a été transféré à l'hôpital. On a des vidéos, enfin j'ai des vidéos bien cachées, camouflées, pas dans ma maison, et personne pourra me faire dire où ils sont, qui sont bien au chaud d'ailleurs. Et on entend des gens qui crient aux fenêtres et qui disent qui s'énerve même en disant surveillant, tu verras, demain on va bloquer, vous allez voir la misère qu'on va vous faire demain, parce que là on est enfermé, on peut pas sortir, tu vois. Et ça hurle aux fenêtres, on peut pas me dire que qu'ils sont pas entendus. Ça n'existe pas, c'est pas vrai. Voilà.
C'est-à-dire que c'est pas possible.
C'est pas possible, ils ont entendu, c'est pas vrai. C'est pas vrai, voilà.
Bon, en tout cas, on croise les doigts pour le poteau et tous ses proches et tout. Et là, c'est peut-être, voilà, c'est le truc aussi important. Voilà, en espérant qu'il se rétablisse au plus vite.
On donnera des nouvelles quand il y en aura.
Ouais, c'est important. Ouais, c'est super important. Et surtout, si les gars, vous nous entendez, je suis pas sûr, mais si vous avez des proches de là-bas qui nous entendent et que vous avez entendu parler de quelque chose, écrivez-nous, donnez-nous. Il est pas trop tard, c'est important pour nous, c'est important pour eux, c'est important pour tous les autres à venir derrière. Et voilà, confirmer ce qu'on se met dire, quoi, aidez-moi.
Non, mais enfin, dans ces situations-là, faut témoigner si vous avez entendu des trucs. Enfin, voilà, on n'a pas le nom de l'avocat ici, mais faut essayer de leur faire passer des témoignages. Alors, on sait la répression que vous pouvez prendre à l'intérieur, donc bien sûr que, enfin voilà, si y a des moments où on peut pas, mais voilà, essayer de trouver des moyens pour faire passer des témoignages à l'extérieur. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Il faut se protéger de la répression qu'il va y avoir aussi, mais il y a des moyens toujours de faire sortir ces témoignages.
C'est le moment de donner le numéro de téléphone de l'envolé.
Mais tu le connais par cœur, je vais te laisser le donner.
Non, j'ai pas envie de prendre la bouche.
Donc voilà. Mais donc c'est le 07 52 40 22 48.
Donc, pour nous écrire, c'est au 1 rue de la Solidarité, Paris 19e.
Ouais, bah oui, ça change pas, tu t'en rappelles. Vas-y, à très vite, Sylvia. Et moi, je voulais juste parler aussi de ce qui se passe dans l'Est de la France. J'ai pas envie de dire trop de bêtises, mais je crois savoir que s'il a été jugé à Nancy, c'est parce que ils ont, sur toutes les dégradations qu'il y a pu avoir sur des antennes relais, sur des radars et tout ça, ils ont confié ça à un juge spécial sur toute la France, sur toute l'Est de la France. Voilà, et donc je crois que c'est pour ça, j'ai pas vérifié depuis. Mais aussi, je voulais parler de ce qui se passe à Besançon. À Besançon, il y a vraiment une répression de ouf qui se passe pour des petites dégradations vraiment péraves, quoi. Voilà, il y a 2 ans encore, ils ont foutu en procès 3 personnes qui étaient accusées d'avoir fait des campagnes anti-pub 6 ans auparavant. Voilà. Et donc, ils sont allés chercher des gens en 2019 pour des faits qui étaient reprochés en 2013. Voilà, donc ça, il n'y a pas de souci, la justice fonctionne très très bien.
va chercher les gens 6 ans après, il n'y a pas de problème. Mais par contre, quand il y a tous les petits nasillons qui sont de sortie dans les rues, comme de plus en plus, là, depuis 3-4 ans maintenant, les nazis, ils sont sortis à Besançon, il n'y a pas de souci. Voilà, ils affichent leur campagne publicitaire partout, dans tous les quartiers, à Rivotte et tout. Là. Ils vont dans les manifs anti-pass et ils fracassent des gens. Là, par contre, la justice, elle a beaucoup plus de mal à passer tout ça, tout simplement parce qu'en fait ils sont du même côté, enfin voilà, et donc il y a pas on va pas demander qu'il y ait une justice qui passe pour eux, on se charge de les exclure de nos rues et tout ça. Ils savent qu'en ce moment le mouvement antifa à Besançon il a un peu baissé, voilà, mais en tout cas ce qui est clair c'est que les juges là par contre ils vont pas chercher, et voilà, parce qu'en fait ils savent très bien que ça va dans leur sens, que ça va dans voilà, et donc ce qui se passe à Besançon c'est franchement flippant, donc voilà, on va passer un petit coup de musique, je vois que ça fait marrer beaucoup de personnes, mais en vrai c'est important de parler des rapports
autour de terrain quoi,
voilà, et on passe un petit coup de musique et puis on va discuter avec Charlotte juste après.
Un alphabet et méchant, je suis mon instinct. Une place au paradis, pas dans leur monastère. Ils m'invitent au festin maintenant que c'est plus restreint. Ils sont trop bizarres, ça fait longtemps que je reste loin. Mais faut gagner plus vite, mais mets un gros si le job est historique. Qu'est-ce que tu négocies? Tu sais très bien comment ça se passe dans nos îles. Reste dans ton qu'on n'attend pas le Covid. Elle veut offrir comme papa l'a fait. Au contraire, j'arrête pas de paraffer. J'éponge de billets, mon petit cœur balafait. Si je suis couronné, c'est pas grâce à la fête. On joue sur le terrain et sur nos émotions, chacun dans son rôle. Ça finit en drame des fois, vu que mes grands frères c'est pas des lol.
Oh no, oh no.
On fait pas les bonhommes, c'est nous les reines, ils n'ont pas l'habitude. Je ferai le travail même quand ces niamans n'auront aucune gratitude.
Oh no no, mets à terre les fesses en haut. Je ramène le pain, leur oro, y'a pas allo maman bobo. Oh no no, blocodo, les éléphants en troupeau. Amada zéro dodo, vol direct ça ferait bobo.
Posé dans le 4x4, tout est automatique. Bolos donne du respect à ma clique. J'ai l'âge de faire crier ton taron, le juice miré gros c'est sûr tu cliques. On veut pas m'ouvrir donc j'ai cassé le carreau. J'ai de fumer des flèches comme un garrot. C'est en marche, j'ai activé le galop. Gros je me mets dans le gamos. T'es en dèche, dèche. Pendant que le juice s'encaisse, j'oubine, je flex. Je suis sur le toit de ma tête. Juicy, gang. Dans la salle à weed en fesse. J'oubine, ice. De l'auriculaire à l'index.
Robotique en machine et programmée seulement que pour faire du sale. Je n'ai plus de pitié, c'est pour mon bien que je vais tous les faire du mal. On vient de la rue, y'a rien à faire chez nous, la violence est banale. Négro, je suis là pour l'étal.
Ah. Oh non, non, mets à terre les fesses en haut. Je ramène le pain, leur oro, y'a pas allo maman bobo. Oh non, non, blocodo, les éléphants en troupeau. Amada zéro dodo, vol direct, ça ferait bobo. Oh non non, mets à terre les fesses en haut. Je ramène le pain, leur oro, y'a pas allo maman bobo. Oh non non, blocodo, les éléphants en troupeau. Amada zéro dodo, vol direct ça ferait bobo.
Retour sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, c'est l'émission L'Envolée, comme tous les vendredis soirs, de 19h à 20h30. Donc pour nous appeler en direct, c'est le 01 40 05 06 10, et sinon toute la semaine, c'est le 07 52 40 22 48. Et pour nous écrire, bah donc tous les réseaux sociaux et autres, et aussi à l'adresse de L'Envolée, donc l'envolée-fpp, 1 rue de la Solidarité, 75 019. Paris. Donc là, on va discuter avec Charlotte. Charlotte, salut déjà. Il y a aussi Hassan qui est arrivé.
Et salut.
On fait un big up aussi à Greg qui est arrivé. Et puis voilà. C'est cool de vous revoir ici, parce qu'en fait, c'est pas
génial.
La première fois que vous passez.
Des habitués maintenant.
C'est ça. Vous avez un abonnement, un ticket.
C'est ça.
voilà. Et puis on va parler. souvent, en fait, voilà, quand vous étiez venu et tout ça, on a parlé de tes dessins, Hassan, et là, on va parler d'un bouquin que tu viens de sortir, Charlotte.
Ouais.
Qui s'appelle
L'autre Ahmed ou la tante.
Voilà, donc c'est un bouquin qui est sorti aux éditions Chèvrefeuille Étoilée et qui va arriver. Je suis très très nul en Bernard Pivot, hein, donc voilà, voilà, et bah, c'est un bouquin, peut-être ce que tu peux raconter un peu.
Ouais, je vais contextualiser un peu parce que bah du coup Hassan là, qui a été présenté en tant que Hassan, donc c'est Hassan qui fait les brèves de prison donc sous le pseudo La Has. Du coup, quand il était incarcéré, j'avais fait un blog d'abord qui s'appelait Les Brèves de prison. Et ensuite, c'est devenu un livre qui a été édité. Donc, on était venus à l'émission pour parler du livre. Et en fait, bah, moi, pendant qu'il était incarcéré, j'ai écrit un récit où, du coup, bah, je parle notamment de la prison, de mon point de vue de compagne. Voilà. Et donc, dans mon livre, il s'appelle Ahmed. Donc, voilà, c'est ce que je voulais déjà poser parce que c'est un peu compliqué.
Désolé pour les blazes. Bah déjà, peut-être, parce que c'est un truc sur lequel tu commences et tout ça, c'est ton rapport à la tôle, il commence pas il y a 3 ans.
Non. Non, bah ça, ouais, c'est un peu une ironie de la vie. Bah en fait, quand j'avais 14-15 ans, que j'ai commencé à m'intéresser à la presse libertaire, j'étais tombée sur une publication qui existe encore, je pense, l'anarchiste Black Cross, qui du coup parlait de prisonniers. Bon, dans les faits, c'était souvent des prisonniers politiques et souvent, ils donnaient des adresses pour envoyer des lettres de soutien. Et du coup, j'avais commencé, j'avais écrit à plusieurs et donc j'ai été en correspondance pendant plusieurs années avec... des prisonniers espagnols, italiens. Et j'étais allée à Fresnes parce qu'il y avait une prisonnière espagnole qui s'était retrouvée à un moment donné incarcérée en France. Et donc, mon premier parloir, je l'ai vécu à ce moment-là, en fait. Voilà. Et voilà, donc c'est un peu ironique parce que bah, des années plus tard, bah, mon compagnon se retrouve en prison et en plus d'une manière qui n'était pas du tout... C'était pas ni un militant, voilà, on aurait pu s'attendre à ce que ça puisse arriver, voilà. Voilà.
Ouais, parce que tu racontes pas mal. Enfin, moi, c'est un des trucs. Enfin, très souvent, en fait, on a des. On a quasiment tout le temps à cette antenne, en fait, des proches de prisonniers ou de prisonnières. Mais souvent, en fait, ces proches, ils racontent la vie de leurs proches, voilà, et pas. Et parce que eux, ils vivent.
Ouais.
Voilà. Et...
Bah, en fait, ouais, c'est vrai que l'envolée, vous m'avez donné un peu, une espèce de légitimité que je me donnais pas moi-même au départ, parce que c'est vrai que, en fait, tu te dis, bah voilà, enfin, les gens qui sont en prison, c'est horrible et tout, et moi, voilà, tu te dis que c'est moins pire. Enfin, au début, j'avais du mal à me dire que. Voilà, avoir cette légitimité de parler de mon point de vue à moi, quoi.
Mmh. Ouais, parce que quand il y a un proche qui est incarcéré, en fait, il y a quand même... Quand t'es dehors, en fait, t'as tout un tas de trucs à faire pour la personne, en dehors d'aller en parloir. Aller en parloir, ouais. Ça prend vachement de temps. Mmh. Et du coup, ta vie, elle se rythme quand même vachement en fonction de ton proche ou de tes potes, ouais, qui sont à l'intérieur, quoi.
Oui, ça change complètement la vie quotidienne.
Et du coup, c'est hyper important, en fait, parce que nous, c'est ce qu'on dit souvent, derrière les gens qui sont enfermés, bah, y a tout un tas de gens qui sont dehors et qui sont pris, ouais, dans l'enfermement.
Ouais, puis en plus, quand on dit choc carcéral, il y a le choc de la personne qui se retrouve en prison. Mais en fait, quand t'apprends que ton proche est en prison, c'est aussi un choc hyper fort, quoi. Hyper violent.
Et donc, ouais, et t'as écrit ce moment... T'avais envie de témoigner là-dessus, enfin, comment ça s'est passé pour te dire au début
Ouais, en fait, j'ai eu un... Il y avait deux moteurs, on va dire. Parce que moi, en fait, c'était une double sidération, on va dire, quand il s'est retrouvé en prison. Il y avait le fait qu'il se retrouve en prison. Et puis, il y a la manière dont il s'est retrouvé en prison. Mmh. Puisque, du coup, bah, il s'est retrouvé en prison suite à une crise psychotique, du coup, à laquelle je ne m'attendais pas non plus. Et du coup, moi, quand j'ai écrit, c'était à la fois pour témoigner de la prison et à la fois pour raconter notre histoire et essayer de comprendre en fait ce qui nous arrivait et comment ça avait pu arriver. Donc, du coup, le récit, il raconte notre rencontre, notre histoire, comment je me rends compte au fur et à mesure qu'il y a quelque chose qui ne va pas, sans pouvoir imaginer non plus un truc pareil. Et puis, le moment où il disparaît d'abord, je n'ai pas de nouvelles pendant des jours. Et puis après, j'apprends qu'il est en prison, qu'il a pris 3 ans ferme. Et après, la deuxième partie du récit, bah, c'est le quotidien avec les visites au parloir. Et...
Oui, il y a ce moment qui dure pas mal de pages dans lequel tu racontes...
Le premier parloir.
Ouais, non, le moment où vous aviez rendez-vous.
Ah oui.
Voilà. Ouais. Et puis, t'avais jamais fait de lapin, toi.
Ouais. Non. Ah ouais, moi, c'était...
C'est pas dans mes habitudes de disparaître comme
c'était,
ça, ouais.
C'était mon retour de vacances. Et puis, du coup, bah, on avait convenu... Voilà, il devait me rejoindre, quoi, le soir de mon retour. Et puis, bah, il n'est pas venu. Et puis...
Et là, il y a tout qui passe dans la tête, quoi.
Ah bah ouais, parce que là... C'est incompréhensible. Qui est, moi, au début, après, enfin, au bout de plusieurs jours, n'ayant toujours pas de nouvelles, j'ai fini par aller au commissariat. Mais à la base, j'y allais pour signaler une disparition. Parce que j'avais pas de raison d'imaginer qu'il pouvait s'être retrouvé en prison.
Et là, en plus, la flic qui t'accueille, elle t'accueille de manière très douce, tout ça. Mais en fait, elle te fait aussi un peu une petite entourloupe.
Bah ouais, parce que en fait, elle est très maternelle, tout ça. Elle me dit, oh, moi j'étais en larmes et tout. Elle me dit, allez vous asseoir, vous inquiétez pas, je fais des recherches et tout. Puis quand elle me rappelle, elle me dit, vous inquiétez pas, il va bien, votre copain va bien, il a fait une bêtise et donc il est dans les locaux de la police judiciaire. Donc elle me le dit d'une telle manière que sur le moment, je me dis, ah bah.
C'est juste une garde à vue.
Ouais, c'est juste une garde à vue. Voilà, il a dû faire une petite connerie, pas trop grave. Mais ouais. Après, quand le lendemain, je crois, j'apprends qu'il est déjà passé devant le juge et qu'il a pris 3 ans. C'est...
Ouais, donc t'as même pas pu en plus te rendre au procès.
Non, bah non, j'ai pas été.
Ouais, il y avait que mon frère au procès. Mais j'ai. Ouais. Mais...
À ton frère, il avait été appelé par les flics, je crois.
Ah ouais, sûrement, ouais.
C'est vraiment le classique, en fait, des méthodes de keuf. Hein. Quand il y a un rassemblement devant un commissariat, ils sortent toujours pour dire « Maintenant, arrêtez votre rassemblement, la personne elle va être libérée dans une demi-heure. » Quand tu as des proches, ils les font toujours galérer en disant « Maintenant, t'inquiète. » Et en fait, c'est une manière aussi que le procès se passe,
effectivement,
en pied de défense.
Ouais, parce que en fait, son frère, c'est pareil, ouais, c'est ça. En fait, ils lui ont présenté la chose de telle manière qu'il a pensé que c'était pas un truc très grave et que du coup, il s'est pas démené pour rechercher un avocat et tout ça, quoi.
Et c'est là où tu vois un peu l'esprit de corps, tu sais, qui est en face, où la keuf qui a rien à voir, qui est dans je sais pas quel commissariat, elle est quand même là pour essayer de plomber la personne qui est inculpée, de manière à ce qu'il y ait un maximum de chances que la personne ait le béton, quoi. Enfin, tu vois, c'est tout ce système qui est mis en place où ils sont hyper solidaires, quoi, pour la répression et pour faire béton les gens, quoi.
Et tu racontes aussi pas mal les parloirs, quoi. Et tu racontes aussi comment les parloirs, en fait, ils sont bouffés par tout l'administratif, qui est assez ouf. Voilà, parce que donc, y a, pour expliquer un peu, il y a la question de savoir est-ce que tu vas faire appel ou pas. Et donc, et ça bouffe le temps, quoi.
Tous les trucs dont on doit parler.
Les premiers parloirs, on parlait avec ça, quoi.
Bah ouais. Et
on
comme
dossiers, faire ci, faire ça, avocat, ouais. Régler ci.
C'est 45 minutes qui passent super vite. Et ouais, c'était un truc que j'ai beaucoup ressenti, c'était d'essayer de profiter au maximum des parloirs. Et c'était super dur, quoi. Parce qu'il y avait toujours un truc qui nous ramenait à la situation présente et à la prison.
Tu racontes vachement bien. Dans un parloir, on n'a pas le droit de venir avec une feuille, par exemple. C'est un truc peut sembler. Déjà, c'est complètement hallucinant que ça soit interdit de venir avec une feuille. Pour les enfants, ils n'ont pas le droit de venir avec des dessins. C'est des trucs vraiment de ouf. Mais un truc comme ça, en fait, ça a des conséquences concrètes sur le parloir. C'est-à-dire que tu racontes comment, en fait, tu as ton cerveau qui est juste en train de te dire. Merde, j'ai pas oublié ça. Tu refais la to-do list dans la tête tout le temps. Je sais pas, c'était comme ça. Et je sais pas, enfin, moi, en lisant, je me suis dit, putain, c'est ouf, en fait, tu vois. Comment la simple interdiction de prendre une feuille, en fait, a des si grosses conséquences humaines, tu vois, sur le coup.
Ouais.
Et voilà, enfin oui, je sais pas comment rebondir là-dessus, mais enfin en lisant ces passages là, je me disais putain, enfin voilà, enfin je sais pas, c'était le genre de truc que je me disais.
Et puis les parloirs, c'est toujours stressant, quoi. Enfin, t'as toujours l'impression d'avoir oublié un truc dans ton sac, ils vont peut-être te gauler pour quelque chose. Enfin, c'est toujours la merde au moment où tu vas, tu stresses jusqu'à ce qu'il y ait le parloir qui ait lieu.
Ouais, oui, t'as toujours le doute, est-ce que je vais arriver à le voir, quoi.
C'est ça, et il faut qu'après eux ils te fassent pas un parloir fantôme, parce que ça arrive aussi hyper souvent.
Ah, j'ai vraiment eu de la chance, j'ai pas eu de parloir fantôme là, tout le temps que j'étais là-bas. Parce qu'à chaque fois, les mecs, parloir fantôme, c'était la.
Bah ouais, c'est la crise,
quoi. C'était la sinistrose, quoi. Ils baissaient la tête, ils disaient ah merde, et puis ils rentraient dans leur cellule là. Non, franchement, j'ai eu de la chance de ce côté-là, ouais.
Ouais, et inversement, toi, t'as pas non plus dans mes souvenirs des moments où ils ont pas.
Bah non, bah après, bon, il y a eu une fois où il y a un truc sur ma robe qui a sonné, et du coup, j'ai dû aller en vitesse, me changer à l'accueil des familles et tout, et donc c'était le gros stress parce que j'ai vraiment failli rater le parloir. Et puis une autre fois où, donc on prend les rendez-vous, on peut les prendre sur des machines sur place, et en fait, c'était vraiment super con, mais. Faut cliquer plusieurs fois pour que le rendez-vous soit vraiment validé, mais c'est pas évident, en fait. Il y a un moment où tu cliques et tu peux avoir l'impression que c'est bon, et en fait non. Et bref, et une fois, en fait, j'ai cru prendre mon rendez-vous et il n'était pas bien pris. Du coup, je me suis pointée et là c'était vraiment horrible parce que tu peux pas prévenir ton proche, tu peux pas. Il avait pas de téléphone, donc je pouvais pas l'appeler. Donc lui, il comprenait pas, il a pas compris. Enfin, ça c'est le genre de situation où. Enfin voilà, de l'extérieur, ça peut paraître pas hyper important, mais en fait, quand la personne est en prison, la moindre visite, ça a une importance énorme. Donc voilà. Ça...
Et inversement, parce que ça veut dire que toi, tu as aussi pris ta journée pour, ta demi-journée pour aller le voir.
Ouais.
Et que c'est aussi le moment où toi, tu vas le voir. Enfin, quand tu vas voir tes potes, c'est aussi les seuls moments où s'il n'a pas de téléphone, c'est les seuls contacts, quoi, ou tes proches, quoi. Donc c'est chaud.
Ouais,
enfin...
ouais.
Et puis en plus, après, c'est ce que tu racontes, quoi. Fren, c'est vraiment genre la vieille prison, on te fait galérer. Enfin, il y a deux salles d'attente avant que tu arrives au box. Après, une fois au box, on te fait à nouveau galérer.
Ouais.
C'est un box qui est tout petit. Enfin, je sais pas, moi, je me souviens de parloir à Fren où il y a des gens qui pètent un câble dans le box à côté en disant en fait, non, ouvrez-moi la porte. Moi, juste, je vais pas rester enfermé dans 2 mètres carrés pendant une demi-heure avant que mon proche il arrive, quoi. Et une fois que tu as eu le parloir, tu restes à nouveau enfermé là-dedans. Pareil, ils te font galérer avant que tu sortes.
Ouais. Et c'est... Ah ouais, puis ça, c'est le pire parce que y a l'attente avant de le voir, déjà c'est super dur, mais au moins t'attends de le voir. Mais alors après, une fois que c'est fini, déjà t'es déprimé. Et là, t'attends encore dans le box là, minuscule, c'est hyper. Ouais, c'est très oppressant.
Ouais, t'es vraiment au rythme de la tôle en fait à ce moment-là.
Ouais.
C'est-à-dire qu'eux, ils en ont rien à foutre de te faire sortir. Enfin, ils pourraient très bien te faire sortir rapidement, quoi. Mais il y a une priorité à faire remonter les personnes en cellule. Et du coup, c'est juste, toi, ils vont te laisser galérer le temps qu'il y ait des agents dispo pour. Enfin, des matons dispo pour te faire sortir, quoi.
Mais je pense qu'aussi, il n'y a pas le fait, s'il y a un mec qui fait rentrer quelque chose, après, ils arrêtent les proches ou ils arrêtent.
Ouais, c'est ça. Et il y a aussi des trucs au cas où tu t'échanges. Quand tu vas voir un gars et que t'as un gars, ils te font passer avec ta main là sur un espèce de scan pour vérifier que c'est bien toi, enfin que c'est pas la personne qui s'en achève, quoi.
Ouais, non, mais c'est juste pour dire parce que, enfin, je sais pas si tout le monde se rend compte qu'effectivement, enfin, à Fresnes, mais comme dans d'autres maisons d'arrêt, enfin, ces box là, ils font, enfin, si tu tends les bras d'un côté, tu touches les murs.
Tu touches aussi les murs.
C'est au sous-sol de la prison, enfin c'est dans le sous-sol, voilà, et ça pue, c'est plein d'infiltration d'eau partout. C'est vraiment
la plupart des tabourets sont cassés, les murs sont sales.
Ils ont rafraîchi au moment du Covid, là, ils ont fait des petits cache-misères, là, ils ont commencé à rafraîchir, à mettre de la peinture, tout ça. Là. Puis ils ont mis des murs de plexi surtout, ouais. Pendant le Covid, là, ils n'ont plus le droit de se toucher. Ça, du coup, c'était dur. Ouais.
Et ça, d'ailleurs, parce que je me rappelle quand j'étais allée rendre visite à la prisonnière à qui je correspondais, il y avait encore
les murennes.
Ouais. Et en fait, je ne sais plus c'est quoi la date, mais c'est assez récent, en fait.
Ouais, ça a été une longue lutte qui a été menée où il y avait des décisions du tribunal administratif qui disaient il faut que vous détruisiez les murets, et détruisez les murets de 10 cm.
Et donc comme ça, ça reprenait un an et demi, le temps de repasser au tribunal administratif qui disait non, il faut détruire complètement les murets. Mmh. Voilà. Et donc ça, c'est Scotto qui était à l'époque directeur de Fresnes et qui est aujourd'hui directeur de la DI, donc la direction interrégionale donc de l'ensemble de toutes les tôles d'Île-de-France, et qui était dernièrement Rhône-Alpes, qui vient d'être nommé en Île-de-France et qui vient d'introduire les tasers et les LBD à l'intérieur de ces tôles. Donc voilà. Puis bah ouais, peut-être raconter aussi le confinement, comment vous l'avez vécu, parce que enfin on s'est eu quand même quelques fois au téléphone et tout ça, mais donc enfin dans le bouquin on voit bien que les parloirs quand même ont vraiment sont un moment important, quoi.
Ouais.
Voilà, et là vous êtes privé de ça.
Ouais, bah en fait nous on a eu un peu de la chance parce que ça a pas duré trop longtemps vu qu'il a été libéré à cette période-là, mais bon ça a quand même duré bien un mois et demi.
Ouais, puis les parloirs
mars, avril.
Ouais, t'as été libéré quand les parloirs ont commencé à reprendre.
Ouais, on a eu un ou deux parloirs dans ce cadre-là et après il a été libéré. Mais là c'était vraiment tout était amplifié en fait, donc plus de parloirs, on ne sait pas du tout quand ça va reprendre, c'était compliqué aussi pour les lettres, elles mettaient beaucoup plus longtemps à arriver, donc
c'était compliqué de s'échanger, de parler, de pouvoir s'échanger des informations, de pouvoir, c'était un peu, c'était une période compliquée, mais ouais, on était isolé, vraiment isolé en prison, quoi. On a vécu, en plus on avait que les promenades, il y a plus d'activité, on croisait plus d'autres gens dans la prison, en incursive. C'était vraiment très, ouais, c'était spécial, c'était une ambiance un peu spéciale, un peu bizarre, quoi.
S'il y a des gens qui veulent plus, tu nous l'avais raconté à la première émission de l'année dernière, donc ça doit être début septembre 2020, vous retrouvez sur le site. Peut-être juste avant de terminer, je voulais lire un passage moi qui m'avait pas mal plu. Une peine de 3 ans ferme, c'est beaucoup, mais c'est peu en regard de tous ces gens qui ont pris 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Une année effective, c'est beaucoup dans une vie et c'est rien. Un seul automne, un seul hiver, un seul printemps, un seul été. Il y aura ces femmes que j'entendrai dans les salles d'attente du parloir et qui feront paraître ma situation presque enviable. Cette mère qui va visiter son fils chaque semaine depuis 15 ans. Il a été emprisonné à 18 ans. Il en a 33 aujourd'hui. Toute sa vie d'adulte, il l'a passé derrière les barreaux. Ces jeunes mères qui élèvent seules leurs enfants, qu'elles conduisent voir leur père dans un box chaque semaine. J'ai honte de me servir de la souffrance des autres pour consoler la mienne. Et ouais, je sais pas, c'est un passage qui m'a pas mal parlé, quoi. Ce truc de se dire, j'ai une situation merdique, mais les gens, ils sont encore pires.
Ouais, parce que tout est relatif. Quand j'ai appris qu'il avait pris 3 ans, pour moi, c'était une éternité. Et puis, c'est après, ouais, quand tu t'entends d'autres gens parler de peines beaucoup plus longues, ça fait relativiser.
Ouais, j'ai ressenti la même chose en prison aussi. Au début, j'étais là, oh là là, c'est un truc de ouf et tout, 3 ans, c'est l'éternité. Puis finalement, je croise d'autres mecs aussi qui sont là, juste en préventive, ils n'étaient même pas condamnés encore. En préventive, ils étaient là depuis 6 ans, des 5 ans, 6 ans, ils n'étaient pas jugés, ils avaient plusieurs affaires. Puis il y avait des mecs condamnés, 8 ans, 10 ans, du coup là, je relativisais aussi, ça m'a aidé à supporter aussi le poids de l'incarcération. Et puis voilà, puis finalement, j'ai eu de la chance. Hein. Je suis sorti au bout d'un an, au lieu de 3. C'est plutôt cool.
Bah ouais, après, tu termines le bouquin en parlant de ça un peu aussi, toute la bataille pour l'aménagement de peine et tout. Donc, tu racontes comment réussir à trouver la promesse d'embauche.
Ouais, parce que ça aussi, c'est tombé au moment du confinement, en fait. Le moment où on devait donner le dossier à l'avocat, quoi, pour la demande d'aménagement de peine. Et du coup, c'était la période super compliquée pour trouver un employeur, quoi. C'était vraiment pas la bonne période. Et du coup, voilà, j'en parle aussi un peu, ouais, de ce stress-là.
Ouais, qui est monstrueux, puis tu dois courir dans Paris pour aller trouver les gens.
Ouais, finalement, ça s'est bien fini parce qu'il y avait un ami de l'AS qui avait qui nous avait parlé d'un plan, et moi j'étais en stress parce que finalement le mec il donnait plus de nouvelles, et puis bah finalement si, quand même au dernier moment c'est bon, on a eu la promesse d'embauche. Mais tu te dis, un truc comme ça, c'est pareil, ça peut paraître con de l'extérieur, mais en vrai, si on l'avait pas eu, bah peut-être qu'il serait pas sorti, quoi. Peut-être qu'il aurait pas eu son aménagement de peine, donc c'est quand même des stress énormes, quoi.
Ouais. C'est vrai.
Bon, en tout cas, ça fait partie des événements cool de l'été dernier, de savoir que vous avez été libéré. Et voilà. Et juste, bah, peut-être aussi, comme tu le disais au début, voilà, on a pas mal parlé de la seconde partie. La première partie parle aussi de votre rencontre, et puis de je sais pas si tu aimes le terme de maladie, je sais pas si c'est le terme.
Si, c'est ça, c'est un peu une maladie, c'est un peu une, des troubles psychiques.
Troubles psychiques, excuse-moi.
Non, mais c'est ça, hein, c'est.
Et voilà, et ça raconte aussi ce truc-là. Et donc, enfin voilà, nous on l'a centré sur la prison et tout ça. Mais donc, il y a une émission que vous avez faite mardi au micro de cette radio aussi sur FPP, où vous avez un peu plus parlé de cet aspect-là, si
je ne me trompe pas.
Donc voilà, je me souviens plus.
C'est l'émission Rendez-vous Citoyen.
Voilà, donc je suis mauvais pour citer les voilà, mais donc ouais, donc le bouquin s'appelle L'autre Ahmed ou l'attente, donc c'est aux éditions Chèvrefeuille Étoilée, puis donc Charlotte Cailleux, si vous voulez demander à vos libraires et tout ça. Je sais pas si vous voulez rajouter un petit truc, de toute façon vous avez le droit de revenir quand vous voulez et tout ça, enfin comme d'hab, quoi. Mais si vous voulez rajouter un petit truc,
super bien accueilli, peut-être on reviendra quand prochain livre de Charlotte Cailleux, hein, pourquoi pas, ou même prochaine BD.
Bah, on attend avec impatience. Et ben on va passer un petit coup de zik, et puis on attend un coup de fil juste derrière. À tout de suite.
The dark flesh, Bob Moss, speak mine. What she thought them 99 problems was, war on drugs, legality. They got us on fallacies, resorted in casualties. I was supposed to resort in the Maldives now. We in the rallies now, boxing in IG now. Boxing like Ali in the memory, pouring Hennessy and bamboo shot, reaching for the ID. Get off my neck, nigga, let your Cuban link. I think like the Cubans think, you'll never get a side of back. We got your back, T. Mallory. Carry on like a Prada bag. The dogs with me like they caught a lab in the backseat of a patrol car. That's luck, they ain't called a coroner. Should be Hall of Fame, corridor. The way we run it back. You think it's 63? I'm thinking 63. 180 degrees, get your shit straight. Mr. Police did the same thing. The cold chiefs did the same thing. The Raheem do the same thing. In our reality, y'all got 99 problems, and 12 still the biggest. I got 99 problems, baton bullets triggers. I got 99 problems, 12 still the biggest. I got 99 problems, yeah. Baton bullets triggers. Death come in threes every month, March 33, Nip got a heavy heart. It's killing Jay, I don't get that part. Cops kill lawfully, no remorse. I don't wanna hear arguments no more about black on black, white on white, kill their own two. And cops the only ones who ain't accountable. Black men in jail for an ounce or two. Talk about for us it's punishable. Still ain't free. Look at the weed business, white men making buku. In Timbuktu, hope they praying at the mosque for us. When you create your own, you don't care what they top floors. Y'all 13 superstition, we get a 13th amendment. We get shot back without a shot back. Take the shot back and vaccine. All we see is murder, 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 murder. Hey, you wonder why we got it? Disorder, anxiety. You die not pass the sobriety. Atlanta, Georgia, that's some shit. I got 99 problems, and 12 still the biggest. I got 99 problems, but time bullet tricks. I got 99 problems, and 12 still the biggest. I got 99 problems, but time bullets triggers. You never seen as a victim.
Never seen as a victim.
Watch you run and walk miles and Michael victims. Been dogged out.
Been dogged.
No paws in house. No daddy, no pappy. Who the kids gonna call now?
Who the kids gonna call? We used to steady killing their fathers left and right, our brothers.
They trying to take you out. Black man, black woman. 12.
Vous êtes bien de retour sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. C'est l'émission L'Envolée, comme tous les vendredis soirs, de 19h à 20h30. Et donc, pour nous appeler, mais là, on va recevoir un petit coup de fil quand on est en direct, c'est le 01 40 05 06 10. Et sinon, toute la semaine, le 07 52 40 22 48. Et pour nous écrire, 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris. Et puis, sinon, par mail, les réseaux sociaux, le site internet, tout ça. Voilà, vous connaissez maintenant tout ça. Avant d'avoir le coup de fil, tu voulais parler d'une camarade, Manu.
Ouais, pas que d'elle, mais en fait, il y a un an là, on avait.
Poil, on ne voit pas souvent, hein, Manu.
Pour la dernière fois que je suis venu.
Mais donc, si vous voulez réécouter aussi, n'hésitez pas.
C'était l'émission de rentrée l'année dernière.
C'est ça, où tu développes aussi comment s'est passée l'arrestation et tout ça. Où ça a été
de Carla, qui était arrêtée à Saint-Étienne, donc qui s'est fait arrêter en juillet 2020, après 536 jours de cavale, et qui a été extradée en Italie, parce qu'elle est inculpée. Donc avec plein d'autres personnes, 17 autres personnes, dans un procès qui commencera le 7 octobre aux assises, à la cour d'assises de Turin.
Donc en Italie.
Donc ça fait suite à une opération répressive qui a été déclenchée en février 2019, où donc il y a 18 personnes qui sont poursuivies dans une affaire qui vise... la lutte contre les centres de rétention, donc les prisons pour sans-papiers en Italie. Du coup, bon, ça fait un peu le lien avec ce qu'on va dire après. Puis ça fait le lien avec ce qu'on disait avant là, sur les parloirs, avec, où tu dois parler que de trucs administratifs. Donc les 18, ils sont accusés d'association subversive. Après, il y en a 14 qui en plus sont accusés d'incitation à commettre des actes de violence et des délits. Il y a une personne qui a accusé de la destruction du centre de rétention de Turin lors de la révolte de février 2015. Il y a eu une grosse révolte. Le centre de rétention a totalement été détruit. Et donc, cette personne était en lien avec des gens à l'intérieur. Et donc, elle est accusée, du coup, de la destruction du centre. Et il y a 3 autres personnes qui sont accusées d'avoir attaqué avec un truc incendiaire un distributeur de billets de La Poste à Milan. Voilà, du coup, La Poste, c'est une entreprise qui, là-bas, a une compagnie aérienne qui expulse les sans-papiers qui sont enfermés au centre de rétention. Et donc, il y a eu des attaques contre cette entreprise. Et donc, ces 3 personnes sont accusées de ça. C'est un procès, qui va durer plusieurs mois. Après, ça ne fonctionne pas comme ici. Les procès, là-bas, c'est sur des temps très, très longs, mais ce n'est pas tous les jours. Donc c'est un jour fixe par semaine pendant genre 3 mois, 4 mois. Et tout ça pour dire qu'il y a un repas de soutien qui va être organisé le samedi 2 octobre. Donc en solidarité avec les personnes inculpées et puis aussi pour récolter de l'argent parce que donc il y a plusieurs personnes qui ont passé de longs mois en prison et bon, il y a une personne qui est toujours en prison dans un truc un peu spécial en Italie, ça s'appelle les arrestations domiciliaires, donc qui est en prison, mais chez elle, mais avec interdiction de sortir et tout. Y a besoin de récolter de l'argent pour couvrir les frais d'incarcération d'une de ces personnes qui a passé de longs mois en prison. Et voilà, donc c'est samedi 2 octobre à 19h au squat Le Marbré à Montreuil, 59 rue des Deux Communes. Voilà, peut-être on aura le temps de le rappeler dans l'agenda à la fin.
Ouais. Et du coup, là, on a un appel du centre de rétention de Vincennes. Tu nous entends ? Allô ? Ouais. Et du coup, là, il y a un prisonnier du centre de rétention de Vincennes qui doit... Alors, on t'entend très, très mal.
Oui ?
Ouais, c'est bon. Salut !
Salut !
Ouais, du coup, là, on était en train de parler des centres de rétention côté italien. Et on voulait revenir avec toi un peu, là, on a une vingtaine de minutes, sur la situation au CRA de Vincennes et aussi un peu rapidement sur toi, les différents centres de rétention où t'es passé.
Excuse-moi, parce qu'il y a beaucoup de bruit, respect, s'il vous plaît.
Ok. Alors, du coup, ce que je disais, c'est que là, on voulait parler avec toi de comment ça se passe en ce moment au centre de rétention de Vincennes.
D'accord.
Tu crois que tu peux nous raconter un peu, je sais pas, il y a combien de monde, est-ce que les expulsions ça a repris? Enfin, on en parlait la semaine dernière en vrai des expulsions depuis Vincennes, mais raconter un peu la situation.
C'est dégueulasse. Il n'y a pas de pour le Covid, les gens sont masques. Il y a des gens, après des cas de Covid, la transférée de droit. Et on a un bâtiment à côté aussi. Il y a beaucoup de gens, il y a des positifs de Covid. À part ça, c'est les toilettes, qu'est-ce qu'ils donnent pour manger, aucune protéine, aucun manger bien, ils donnent. Le comportement de la police aussi, c'est pas bien. Franchement, je suis choqué, qu'est-ce qui se passe ici.
Et toi, tu viens d'être transféré à Vincennes, non?
Oui, j'étais à Vincennes. Vincennes, là-bas, c'est mieux qu'ici, parce que là-bas, c'est franchement, j'ai franchi mieux qu'ici pour manger, pour le comportement de la police. Ça va mieux qu'ici.
Ouais, le centre de rétention de Wassel, c'est celui qui est dans une forêt. C'est un peu comme Vincennes, en fait, c'est dans une école de flics. Et oui, c'est dans la forêt, dans la banlieue lointaine de Rouen, quoi, à une vingtaine de kilomètres, je crois, un truc comme ça.
C'est ça.
Et du coup, toi, tu as été transféré à Plaisir après, qui est en fait un...
Oui, j'ai passé 17 jours là-bas. Mais c'est quoi le problème dans Plaisir? C'est pas, j'ai passé 17 jours là-bas, mais tous les jours, il y a même des gens nouveaux. Ils ouais. confinent, mais toujours, ils amènent des gens nouveaux, et vous parlez avec quand on parle avec entre nous, et le Covid, ça vient encore. Moi, franchement, moi, je viens de sortir, mais je sens que j'ai le Covid, je sens les fatigués, je transpire la nuit, j'ai mal à la tête.
Ouais, parce qu'en fait, pour expliquer, du coup, le centre de rétention de Plaisir, c'est une toute petite tôle qui est dans un commissariat dans le 7-8. Et en fait, ils s'en servent depuis un an et demi comme un CRA pour personnes testées positives au Covid, d'un peu toute la France, quoi. Et en tout cas, principalement de Wassel et d'Île-de-France. Et du coup, les personnes là-bas, elles sont enfermées 17 jours avant d'être envoyées dans un nouveau CRA, quoi.
Oui, c'est ça.
Et moi, je me demandais, parce qu'en fait, du coup, toi, tu viens de Wassel. Donc avant, en fait, tu étais plutôt de Rouen, non?
Moi, j'étais, oui, à Wassel, à Rouen. Et après, j'étais à 27, à 78, Versailles.
Ouais, Plaisir.
Plaisir, et maintenant à Vincennes.
Et ça se passe comment? Tes proches, ils peuvent quand même venir te voir? Parce que j'imagine que c'est pas la même chose quoi, entre la tôle de Rouen, le Wassel et Paname, quoi.
Non, c'est trop différent par rapport à... Moi, je parle de Wassel et Vincennes. C'est trop différent, le comportement de la police. Et si même les prix médicaux, il n'y a pas. J'ai entré, j'ai mal au ventre pour prendre mes médicaments. Ils me donnent du coup tout le monde, la police. Je lui ai dit, l'infirmière, madame, il y a un secret médical. Il n'y a pas ça. Elle m'a dit, non, il faut laisser la porte ouverte. Moi, je lui ai dit, moi, j'ai pas envie que les gens me voient. Qu'est-ce que je prends? J'ai sorti depuis 7 jours, je ne prends plus de médicaments.
Ouais, parce que pour rappel, en fait, normalement, les infirmiers et tous les gens du corps médical, ils ont le droit de demander au keuf ou au maton de sortir le temps d'être ausculté, enfin, je sais pas, d'examen, quoi.
Ouais, mais ils ne demandent pas. Si la porte ouverte, la police avec nous dedans, ils voient qu'est-ce que tu prends, tu prends pas. Et ça, c'est pas normal. Moi, je trouve.
Et tu sais si en ce moment, il y a beaucoup d'expulsions à Vincennes?
Comme moi, je refais des tests parce qu'il y a un mal, il est 5 ans et demi, je peux pas laisser. Vous comprenez?
Ouais, refuser le test, en fait, ça te permet de refuser l'avion. Et en fait, le moment de l'expulsion, c'est le moment où les keufs, ils sont violents, quoi. C'est là où ils viennent attacher les gens et tout. Tu m'entends? Ouais, nous aussi on t'entend pas très 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 bien. En vrai.
Attendez. Oui.
Yes, ouais, là c'est mieux. Non, je disais, en fait, refuser le test, c'est un moyen de résister pour refuser l'avion de manière moins violente que quand ils sont en train d'essayer de t'expulser avec une escorte et que voilà, ils ont attaché la personne, tout ça. Enfin, Et du coup, ça marche pour une partie des gens, mais il y a une partie des gens où il y a des pays qui ne demandent plus le test PCR. C'est le cas du Mali, si je ne dis pas de conneries. De la Guinée avant ce qui s'est passé, là, l'espèce de coup d'état militaire, là, il y a 10 jours. Et voilà. Est-ce que tu nous entends ?
Oui, j'attends.
Ok. Toi, tu voulais revenir. Est-ce que tu pourrais revenir avec nous un peu sur comment ça s'est passé de l'atoll Okra ? On t'a prévenu un peu que tu allais arriver en centre de rétention. Ça s'est passé comment ?
C'est comme je vous explique. Ici, moi, franchement, comme je l'ai dit, dans la queue, pour rentrer en fermière ou pour repartir au quasi chercher les affaires, il faut attendre 5 heures, 4 heures. Devant la porte, vous trouvez pour entrer l'infirmière, tout le monde y pousse, tu trouves 15 personnes, 20 personnes devant la porte. Et, les toilettes, c'est dégueulasse, l'eau toujours par terre, il y a plein de l'eau, il y a des gens qui glissent. Surtout le manger, si nous on est très mal, faut on mange bien, faut manger bien. Il m'a amené des manger dégueulasse. Même. Je peux pas manger ça. Il y a des gens aussi malades, il y a des gens aussi handicapés, il y a des gens... J'ai connu quelqu'un avec moi en même chambre, il a fait opération au cœur.
Deux fois,
et là il respire la nuit, il respire mal et tout, il s'en fout de lui. Il y a une autre personne aussi handicapée 50 personnes. Et il est là, il ne comprend pas, il y a des gens comme ça, il y a des gens complètement fous. Il y a quelqu'un, il dort dans la toilette. Il dort dans une toilette la nuit, il part aux toilettes, il dort dans la toilette, complètement fou. Sa place, c'est pas ici, sa place dans la psychiatrie. Il est juste ici.
En tout cas, la semaine dernière, on nous expliquait qu'il y avait eu beaucoup de rafles à Stalingrad et à la chapelle. Et que du coup, il y avait beaucoup de gens qui étaient genre addicts au crack ou je sais pas quoi.
On disait que la semaine dernière, tu nous entends là ?
Oui, j'entends ouais. Là. Vous m'avez dit quoi ?
La semaine dernière, on racontait qu'il y avait beaucoup de rafles autour de la chapelle, Stalingrad et tout. Et donc, il y avait des personnes qui étaient addicts au crack voilà, et qui se retrouvaient à être en sevrage au milieu de vous, alors qu'ils devraient être soignés dans des structures médicales, quoi. Et que c'était dur aussi, quoi.
Ça, franchement, moi, j'ai pas compris parce que j'ai toujours dit ça. Mais j'y vois comme l'eau, mes gouttes, là, ils sortent dans la chambre, même les douches dans les chambres. Parce qu'il y a des chambres pour 4 personnes, il y a des chambres pour 10 bâtiments, il y a des chambres pour 10 personnes. Quand on fait douche, l'eau, ça sort dans la chambre, mais c'est dégueulasse. Si, franchement, c'est catastrophe.
Nous, on t'entend pas trop. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est on peut te proposer de faire un enregistrement dans la semaine ou de reprendre un peu plus tard après l'émission pour essayer de relayer ce que
tu dis. Oui, et moi, je parle à mon cas. Moi, je suis un père d'enfants français aussi. Et la loi, ils disent pas les préfectures de Loiret mais mettre moi en menace publique. Et la loi, ils disent pas, ils disent qu'il y a menace publique pour des criminels, pour des violences avec un arme. Et moi, j'ai fait une condamnation pour 4 mois. Il m'a mis moi en menace publique et j'ai un gamin 5 ans et demi. Je vais parler pour ça aussi.
Et parce que donc tu t'es retrouvé en tôle, c'est ça ?
Oui. Et... J'ai passé 4 mois à présent depuis 2019. J'ai 4 mois à présent, j'ai parce que mon titre de séjour l'envie les préfets de Loiret depuis 2019 et le juge d'application de peine ne m'a pas trouvé solution parce que j'ai pas de titre de séjour. En plus j'ai un contrat CDI, j'ai une entreprise, j'ai un logement, j'ai un camion. J'ai envie dehors, quoi.
Et parce que donc tu devais sortir de tôle et directement ils t'ont envoyé en CRA, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Ok.
C'est ça. Moi, quand je sortirai de prison, j'y compte jour par jour. j'attends les jours que je sors, je le vois mon fils. Il m'a amené de, au CRA, m'a mis moi aux menaces publiques. On dirait que je suis fiché, on dirait que je suis terroriste, quoi. Mm. Est-ce qu'aujourd'hui, que je ne comprends pas, c'est quoi une menace publique? Et moi, je ne comprends pas. Et depuis moi, depuis 2014, je suis en France. J'ai presque 3 ans de travail, 2 ans de formation, j'ai entreprise, j'ai un travail, j'ai un, mon fils qui m'a besoin. Mm.
Et puis à chaque fois, tu expliques ça au juge et ça change rien, quoi.
Oui, mais le juge, j'ai pas vu. Là. J'ai fait, en fait, j'étais, quand j'étais au prison, j'ai fait un appel là, contre les kits de la préfecture. Et j'étais jugé par défaut. J'étais pas présent. Il m'a.
Tu veux dire qu'il n'y a pas eu
de. Le tribunal administratif de Lyon, là. M'a dit oui pour les kits. M'a dit elle était d'accord avec les préfectures pour qu'ils quittent la France.
Je suis désolé, je ne suis pas sûr de très, très bien comprendre, mais ça veut dire que quand tu étais en tôle, tu as fait un appel sur la feinte sur l'OQTF et ils ne t'ont pas transféré. Enfin, ils t'ont pas extrait.
Non, je n'étais pas présent. Ils ne m'ont pas transféré. J'étais jugé par défaut. Même pour j'ai parlé au juge, j'ai expliqué mon cas, que je lui ai dit j'ai un enfant. En plus, sur les rapports. Et moi, j'ai pas fini, la police frontière, elle m'a réveillé au présent, elle m'a dissouni. Et moi, j'ai pas parlé, j'ai refusé de parler, je lui ai dit, moi, j'ai un avocat, j'ai donné mon du recours, que le recours, je l'ai fait depuis 2019. Elle a noté quoi? La police, elle a noté que je lui ai dit, j'ai mon fils, et je lui ai dit, va prendre mon fils. Et j'ai pas dit ça, pour de vrai, j'ai pas dit ça. Moi, quand je l'ai vu, le papier, j'étais choqué. Mais j'ai pas signé en plus, j'ai refusé de signer, je lui ai dit moi j'ai pas parlé, j'ai signé rien. Et lui il a créé qu'est-ce qu'il veut et il m'a dit moi que j'ai mon fils, il prend mon fils. Et moi j'ai dit ça.
Et là tu dois repasser devant un juge de liberté dans combien de temps là? Parce que en CRA là.
J'y passe exactement les 29.
Ok.
Et moi, je vais parler tout ça dans les jugements. Moi, je vais trouver. Moi, si j'ai un téléphone ici, si j'ai un téléphone, je vais filmer. Qu'est-ce qui se passe ici? Je filme les saletés, je filme les gens comme ils bagarrent. Tout est mineur, il y a des bagarres, et les policiers s'en foutent, ils tapent les gens, après ils viennent. C'est du ouf ici. Des gens qui sont malades, des gens qui SDF, et ils laissent comme ça.
Ouais, ils utilisent ça pour séparer les gens. Vas-y. On va. Est-ce que tu veux rajouter un dernier truc avant, parce qu'on va falloir qu'on finisse l'émission.
Moi, j'ajoute quelques trucs. Moi, franchement, je suis choqué. Je suis trop choqué qu'est-ce qui se passe dans les CRA on en a en France. Normalement, on est très mal, ça se passe pas comme ça. Et pour moi, pour mon fils, je lui dis que j'ai besoin de mon fils. Mon fils, c'est ma vie. Je veux entrer avec mon fils. Si la France, il me besoin pas, je veux entrer avec mon fils. Si la France, il me besoin, il me donne mon droit. Et j'y reste ici. Et pour, je parle pour les gens ici. Il y a plein de gens handicapés. Il y a plein de gens malades, franchement malades. Je dis, il y a quelqu'un qui dort dans une toilette. Il est fou. Sa place dans un hôpital à psychiatrie. Il y a des saletés. Il y a du tout. Même les rats, il y a des rats ici. Et c'est tout.
Ben, merci beaucoup pour ton appel. On continue de s'appeler après l'émission, et puis nous on continuera à donner des nouvelles de Vincennes. Merci à toi. Et moi je voulais juste dire que la semaine dernière on avait eu deux appels, un appel du Ménilamlo et un appel de Vincennes aussi, où ça racontait les mêmes choses, c'est-à-dire les transferts depuis la prison où les gens ils sont pas au courant et ils se font transférer de manière hyper violente. Ça parlait d'un transfert à la santé avec les ELAC qui ramènent la personne déjà attachée au keuf de la PAF, là, de la police aux frontières, pour le transfert au CRA. Que voilà, en fait, tout ça, c'est un système qui est mis en place par l'administration pénitentiaire en lien avec les préfectures. Et voilà, et du coup, on donne beaucoup de force. voilà, aux gens qui sont incarcérés à Vincennes, qui viennent de la santé ou qui ont été transférés d'autres CRA depuis assez loin, quoi. Et bah, peut-être que c'est le moment de faire l'agenda et...
Ouais, ça, on a pas mal de choses à annoncer. Bah, ouais. Peut-être pour commencer demain.
Alors, pour commencer demain, il y a un concert au Marbré.
À Montreuil.
À Montreuil, donc rue des deux communes.
39 rue des deux communes.
Yes, à Montreuil. Et du coup, c'est en solidarité avec l'Assemblée contre les centres de rétention et Calimero, donc un collectif de soutien aux prisonniers de la guerre sociale pour envoyer des mandats, etc. Et donc ça se passe demain à Montreuil. Il y a lundi au cinéma occupé La Clé, qui est au métro Sancier, si je ne dis pas de conneries, 5 rue de Banton. Et il y a une discussion qui sera avec des personnes de l'Assemblée contre les centres de rétention d'Île-de-France, avec l'idée en fait de montrer que c'est les mêmes qui tiennent l'assaut là, du centre de rétention de Vincennes, c'est l'ASFAM, qui appartient au groupe SOS, qui sont des proches de Macron, qui sont en fait les mêmes types qui ont racheté ce cinéma pour en faire, pour le transformer, quoi. Et qu'en fait, du coup, voilà, il y a plein de gens qui se battent contre cet assaut de plein de manières, parce qu'elle est sur plein de secteurs, et donc c'est pour commencer à réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on peut faire, quoi.
Ouais,
et j'allais dire que le mercredi prochain, donc tous les mercredis à Paris, il y a une assemblée contre les centres de rétention, et mercredi prochain, à 19h, donc à la Parole Errante, métro Croix-de-Chavaux, il y a une assemblée qui est publique, pour essayer de s'organiser un peu en Île-de-France en solidarité avec les prisonniers, pour faire des manifs, relayer la parole, aller en parloir, voilà, essayer de faire vivre un peu ces luttes dehors, parce que dedans, bah voilà, on en a beaucoup parlé, il y en a souvent, quoi. Et juste avant qu'on passe à autre chose, quitte à parler, juste une dernière bonne nouvelle. Il y a eu une évasion ce week-end, je crois, à Hendaye, qui est une prison pour sans-papiers à la frontière espagnole. Il y a eu une révolte des prisonniers, des keufs qui viennent pour réprimer et qui tapent des gens, et quelqu'un qui a réussi à se nachave. On espère qu'il est loin et qu'il se fera pas rattraper, quoi.
Grave, ça fait toujours plaisir des évasions. Pour le week-end du 1, 2, 3 octobre, donc il y a ce qu'on annonçait tout à l'heure là, pour le procès de Carla et les 17 autres inculpés au Marbré. Voilà, et aussi ce week-end-là à Rennes, il y a un week-end anticarcéral. Voilà, on vous donnera un peu plus de précisions sur le programme, mais c'est en train de se mettre en place, et on va aussi on en a commencé à en parler un peu et tout ça à cette antenne, mais donc avec les copains des éditions du Bout de la Ville, on sort un bouquin qui s'appelle La peine de mort n'a jamais été abolie, donc voilà, parce que il y a quelques jours c'était le 40e anniversaire.
Dans quelques jours, ça va être le 40e anniversaire
de l'abolition de la peine de mort. Ils sont déjà en train d'en faire tout un foin et tout ça pour dire à quel point la France est humaniste. Voilà. Et donc, c'est des paroles de l'intérieur de personnes qui ont lutté. Voilà. Et qu'on rappelait
depuis 20 ans.
Depuis 20 ans, et qui rappellent que. Bon, en fait, non, c'est la guillotine qui a été abolie, voilà. Mais la peine de mort, elle continue à être appliquée, et voilà. Et donc, on va présenter ce bouquin à plein d'endroits. Donc, le mercredi 6, on sera à la librairie L'Atelier dans le 20e. Le jeudi 7, on sera au Saint Sauveur, le bar, pareil dans le 20e. Le vendredi 8, on sera à Nanterre à la librairie El Roba, mon amour, à Nanterre. Et le samedi 9, on sera à Publico, chez les copains de Publico. Les autres, c'est aussi des copains. voilà, dans le 11e. Voilà, donc de toute façon, on aura l'occasion de vous le rappeler. Et puis, normalement, le bouquin sera un peu plus présenté en longueur la semaine pro. Voilà.
S'il y a des prisonniers ou des personnes qui sont incarcérées,
ouais, bien sûr,
qui sont intéressées, faut pas hésiter à nous recontacter, on l'enverra aussi à l'intérieur gratos comme d'hab, quoi.
Pour commencer les coucous, déjà un gros salut à Youssef. Peut-être qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient le faire, mais voilà, un gros salut à Youssef. Il paraît que tu peux nous entendre maintenant, et donc ça fait plaisir. Pareil pour les personnes, on sait qu'ils nous écoutent. Libre Flow, on pense à Watt. Voilà. D'ailleurs, j'imagine que tu t'es douté, Karen. Il y avait des liens. On doit passer
passer les gros, grands coucous de Christa. Une grosse pensée à Nadia. J'espère qu'ils t'accorderont toutes les permes du monde jusqu'à la grande porte et presque bientôt dans les calanques. J'attends ta réponse. Une grosse casse d'aide à son Corès de la Drôme. Je te réponds vite, Boubou. Le taf qui s'arrête n'est peut-être pas qu'une mauvaise news. Je te fais signe bientôt. À Mika et tous les autres au QI de Saint-Maur, lâche rien. Force, courage et déter. J'espère que t'as reçu le matos pour écrire au moins. Une pensée aux enfermés de Val-de-Reuil. Paraît qu'il s'y passe du sale. Faites gaffe aux histoires qui tournent et oublions pas que la plupart du temps, c'est les matons qui jouent à foutre la merde, à bon entendeur. Une pensée aux enfermés du 8 décembre, y a pas d'arrangement, donnez des news. Un message pour le CD de Muret, aux voleurs tombés du camion du camp toulousain. Ils m'ont informé que t'es confiné, ravi que t'aies eu une perme, mais préviens-moi la prochaine fois, s'il te plaît. Eux, ils font pas le taf et moi, j'aime pas y aller, surtout si c'est pas pour te voir. Salut à Youssef, merci pour les nouvelles, j'espère que tu nous entends à Fresnes. Embrassade à Fifi et Monique, on pense à vous et on espère vous entendre très vite à l'antenne. Voilà, il y a la sortie du bouquin et on l'a voilà, et un PS, bon vent à Sam, enfin dehors après le silence de presque un an, ravi que tu puisses enfin voir le ciel, bon vent.
Et bah du coup, rediffusion mercredi matin à 8h30.
Les dédicaces les plus longues du monde. Voilà, merci Manu, merci Charlotte Elaez d'être passé. À la semaine prochaine, force, courage et détermination, il n'y a pas d'arrangement.